Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 15 000 emplois supprimés dans le monde, dont 4 600 en France. Renault souhaite supprimer 8% de ses effectifs sur l'Hexagone. La direction du constructeur automobile le confirme ce matin. Décryptage en début de journal.
Ensuite, bien sûr, nous ferons le point sur le déconfinement et la pression relâchée. Les cafés, restaurants vont reprendre leurs activités.
Idem pour tous les établissements scolaires du second degré. L'oral de français pour les premières est annulé. Le ministre veut qu'un maximum d'élèves puissent être accueillis.
Des manifestants ont incendié hier soir un commissariat de Minneapolis dans le nord des États-Unis. Cela fait suite encore à la mort d'un Afro-Américain interpellé par la police lundi. Des rassemblements ont lieu aussi à New York. Nous irons sur place.
Dans cette édition, enfin, retour sur l'engagement politique de l'humoriste Guy Bedos. Il est mort hier à l'âge de 85 ans. Satiriste, comique engagé à gauche, vous le comprendrez. Et puis dans un gros quart d'heure, le billet politique à un mois du second tour des municipales. Frédéric Saïs se demandera pourquoi Agnès Buzyn revient pour mener les listes macronistes à Paris. Emmanuel Macron avait réclamé mardi des garanties pour l'avenir des salariés de Renault. Mais force est de constater qu'ils seront moins nombreux d'ici 3 ans. Crise économique oblige. 15 000 suppressions de postes dans le monde, 4 600 en France. C'est confirmé ce matin. Alors que la direction de Renault présente son plan d'économie de 2 milliards d'euros, les syndicats avaient été informés hier soir. Le communiqué de la direction vient donc d'être rendu public. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Chef du service économie de France Culture. Anne-Laure, selon le constructeur automobile, il ne devrait pas y avoir de licenciement sec.
Oui, pour supprimer ces postes, la firme aux losanges va recourir à des départs volontaires, des départs à la retraite non remplacés et de la mobilité interne ou des mesures de reconversion, des réductions d'effectifs qui devraient affecter pour moitié des cadres et ingénieurs et pour moitié des ouvriers. Ce projet est vital pour garantir une performance solide et durable. Voilà ce que déclare ce matin dans un communiqué la directrice générale de Renault, Clotilde Delbos. Pour ce qui est de l'avenir des sites dont les noms ont circulé ces derniers jours, le groupe joue la prudence. Le mot « fermeture » n'est pas prononcé. Renault annonce ainsi le lancement d'une revue stratégique pour la fonderie de Bretagne à Caudan, une réflexion sur la reconversion de l'usine de Dieppe à la fin de la production de l'Alpine. Les activités de l'usine de Choisy-le-Roi seront, elles, transférées à Flins, qui va à terme devenir un pôle d'économie circulaire après 2024. Un pôle d'excellence dans l'électrique et l'utilitaire sera, lui, issu du rapprochement des deux usines de Douai et Maubeuge dans le Nord. Des discussions vont maintenant s'engager avec les syndicats et les pouvoirs publics. Une table ronde est notamment prévue lundi matin autour du ministre de l'économie Bruno Le Maire pour trouver des solutions pour les salariés de Maubeuge et de Douai. Condition posée mardi par Emmanuel Macron pour signer le prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros, même si on ne doute pas que le constructeur obtiendra ce prêt jugé par Bercy nécessaire pour sa survie.
Merci beaucoup Anne-Laure Jumet et nous suivrons cela évidemment la semaine prochaine. Merci pour ces précisions. Ces premiers chiffres, 4 600 suppressions de postes en France, je le rappelle. Et déjà ce matin, quelques réactions syndicales. Celle par exemple de Fabien Gache, délégué syndical central CGT chez Renault. Il y voit la fin programmée de ce fleuron français sur son territoire.
C'est la confirmation d'un nouvel affaiblissement de Renault en France et qui, pour notre part, signe dans une certaine mesure et validé par le gouvernement le risque de la mort plus pure et simple de Renault à brève échéance. À partir du moment où, en France, vous liquidez toutes les capacités de production, ça veut dire qu'on ne fabriquera plus aucun véhicule particulier en France, thermique ou hybride, puisqu'ils sont fabriqués intégralement en Turquie et en Espagne, que vous limitez la production française à des véhicules électriques de haut de gamme qui seront vendus entre 40 et 70 000, chacun peut imaginer qu'on aura des volumes à rikiki. Et d'ici peu de temps, on nous expliquera que, par exemple, l'usine de Douai, les coûts fixes sont beaucoup trop importants pour si peu de volume. Et à un moment donné, on arrive à une fin de nos retours. Et c'est bien ça le risque.
C'était le délégué syndical CGT Fabien Gache chez Renault, alors que la directrice générale du constructeur répète ce matin encore que Renault souffre de surcapacité de production au niveau mondial. La liberté va devenir la règle et l'interdiction l'exception. C'est en ces mots que le Premier ministre, un brin satisfait hier soir, a annoncé la fin de la limitation des déplacements pour les Français. Fini la distance maximale des 100 km. À partir de mardi prochain, l'activité du pays va reprendre quasiment normalement. Les bars, cafés, restaurants pourront rouvrir sur la quasi-totalité du territoire, juste en terrasse pour l'Île-de-France, pour la Guyane et pour Mayotte, trois territoires qui sont classés orange sous surveillance particulière. Mais c'est donc la seule différence, l'ouverture des terrasses plutôt que les restaurants en tant que tels. À chaque fois, partout en France, il y aura des distances et des gestes à respecter. Sur le sujet des restaurants, je vous invite d'ailleurs à retrouver dès maintenant en podcast et sur franceculture.fr le hashtag du jour, le reportage de Rosalie Lafarge sur les restos confinés. Pour tout le monde encore, par ailleurs, les parcs et les jardins seront accessibles. Le sport va pouvoir reprendre petit à petit. Et puis, les écoles ouvrent également leurs portes. Dans le second degré, tous les établissements sont concernés, les collèges et surtout les lycées, avec toujours à Kim Kasmi des mesures sanitaires à respecter.
Si l'ensemble des lycées vont pouvoir réouvrir dès la semaine prochaine, il y aura tout de même des conditions. En zone verte, tous les établissements pourront réouvrir, mais attention, il n'y aura qu'un seul niveau de disponible, soit la première, soit la terminale, soit la seconde. Ce sont les chefs d'établissement qui trancheront. En zone orange, cette fois, pas de cours, mais une reprise individuelle, afin notamment de finaliser l'entrée dans le supérieur, notamment les dossiers sur Parcoursup. La priorité sera donnée au bac professionnel, avec là 60% de décrocheurs, notamment au bac pro, les terminales, mais aussi au CAP qui sont en train de passer leurs examens en ce moment. Quant au bac de français, fin du suspense, il n'y aura pas d'oral, le ministre a tranché. On tiendra compte du contrôle continu avec les notes du premier et du deuxième trimestre, au grand soulagement des parents d'élèves et des enseignants. En ce qui concerne les collèges, cette fois, tous les établissements pourront réouvrir de la 6e à la 3e en zone verte, avec bien sûr des limitations en termes d'effectifs, pas plus de 15 élèves par classe, des mesures de distanciation sociale et le masque obligatoire. En revanche, en zone orange, seuls les 6e et les 5e pourront reprendre. Enfin, en ce qui concerne le primaire, tous les niveaux pourront reprendre de la maternelle au CM2, et ce, quelle que soit la couleur sur la carte, avec bien évidemment des demi-groupes. C'est pourquoi, afin que les élèves ne soient pas isolés les jours où ils n'auront pas cours, des activités périscolaires seront prévues par les collectivités, mais faut-il qu'elles en aient les moyens, ce qui ne sera pas le cas dans toutes les mairies.
Moyens humains et financiers, effectivement. À ce propos, Hakim Kasmi, vous avez joint le coprésident de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves. Rodrigo Arenas prévient, c'est à l'éducation nationale d'accueillir les élèves.
Disons que l'école, c'est l'école. Donc il ne convient pas de remplacer des moments éducatifs au sens académique s'ils continuent par des moments qui ne seraient pas liés à une activité qui dépend d'un projet éducatif sous l'autorité d'un chef d'établissement ou d'une directrice ou un directeur d'école, c'est-à-dire sous l'autorité de l'éducation nationale. Que les enfants sont encadrés par des professionnels qui viennent du service public et pas de contractualiser si c'est dans l'esprit que ça deviendrait. Donc il ne faudrait pas que ces deux S, notamment quand les conventions se passeraient avec le commune, soient la porte ouverte ou le cheval de Troie pour des associations qui mettraient en place des actions qui n'auraient rien à voir avec les projets éducatifs qui dépendent, eux, de l'éducation nationale.
Voilà pour une première mise en garde côté éducation. Pour les annonces concernant maintenant la culture, certains professionnels sont aussi sceptiques. Musées, monuments, salles de spectacle pourront rouvrir dès la semaine prochaine. C'est trop tôt et la distance physique est difficile à respecter, disent les professionnels. Pour l'ouverture des cinémas, il faudra attendre le 22 juin. Les rassemblements de plus de 10 personnes par ailleurs reste toujours interdit dans l'espace public. Les terrasses de café, donc, à Paris, les glaciers à Rome, l'Europe poursuit son déconfinement grâce à la décrue de la pandémie du nouveau coronavirus. Ce matin, nous vous proposons une immersion en Europe, en République tchèque. Le pays a particulièrement bien géré l'épidémie avec 9000 cas environ, 300 morts pour 10 millions d'habitants. Comment l'expliquer? Peut-on s'en inspirer? Marie-Pierre Véro et Nicolas Mathias ont posé la question à Jan Konvlenka, biochimiste et vice-recteur de l'université Charles à Prague.
Les Tchèques et sans doute d'autres nations dans cette partie de l'Europe sont culturellement habitués à suivre les règles. C'est peut-être aussi le cas des Allemands et des Autrichiens. Donc nous ne sommes pas forcément très contents des décisions qui sont prises, mais globalement nous les respectons, nous obéissons. Un autre facteur, et c'est très positif, c'est que de nombreuses initiatives privées ont vu le jour pour lutter contre le virus. Vous voyez ces masques? Eh bien, tout le monde s'est mis à en fabriquer. Celui-là, c'est ma femme qui l'a cousu. Des millions de gens ici portent des masques faits maison. Je connais aussi des chefs d'entreprise, de petites entreprises, qui se sont mis à faire des masques pour leurs employés, puis en ont distribué aux maisons de retraite, aux hôpitaux, aux médecins et infirmières. En fait, au moment où le gouvernement était totalement incapable de réagir rapidement, il y a eu de nombreuses initiatives de la part de la population. Et ça a grandement aidé à contenir la pandémie.
C'était le biochimiste Jan Konvalinka. Pour entendre davantage de témoignages encore, rendez-vous ce soir à partir de 17h sur France Culture pour le grand reportage sur les Tchèques montrés en exemple. Un grand reportage donc de Marie-Pierre Véraud, réalisé avec Annie Bro, et il sera présenté par Aurélie Kiefer.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La colère s'étend aux États-Unis après la mort lundi dernier d'un Afro-Américain à Minneapolis.
Oui, George Floyd est mort après une arrestation particulièrement violente. Les images de cette interpellation ont choqué et elles ont enflammé Minneapolis au sens propre du terme. Depuis quelques jours également, des manifestations ont lieu à Los Angeles et, comme hier, à New York, Loïc Loury.
Je ne peux pas respirer, ces mots George Floyd les a répétés avant de mourir, le genou d'un policier sur la nuque à Union Square. C'était hier l'un des slogans repris par une centaine de manifestants dont certains ont exprimé leur désespoir comme cette jeune femme qui s'adresse à la foule. Quand j'étais petite, je pensais qu'il fallait que je sois blanche pour avoir une meilleure vie. Pourquoi les gens ont-ils peur de moi? Ou une forme de lassitude, ici Taylor. Quand tu pars travailler, tu ne sais pas si tu vas rentrer, rien n'a changé. Et je parle de ça depuis 5 jours, mais je n'ai toujours pas les mots. Ça fait mal. Mais c'est bien la colère qui domine et le rassemblement se transforme vite en face à face avec quelques dizaines de policiers insultés, pris à partie. Il y aura finalement plusieurs arrestations. Teresa, passée par là, elle comprend cette colère. C'est terrible, c'est triste, j'en ai pleuré. Combien de policiers s'en tirent après avoir tué un Afro-Américain? Les gens en ont marre, il est temps que ça change, c'est le début du changement. Optimiste, alors que rien ne semble avoir changé depuis la mort de Trayvon Martin, Michael Brown ou encore Eric Garner, ici à New York, dans des circonstances similaires.
C'était un reportage de Loïc Loury pour France Culture, retrouvé par ailleurs sur le même sujet, la revue de presse internationale de ce jour, de ce vendredi, en podcast et sur franceculture.fr. Les États-Unis encore, où Donald Trump a signé hier un décret qui pourrait limiter les marges de manœuvre des géants d'Internet. Le président américain ne souhaite plus que les réseaux comme Facebook ou Twitter jouissent d'une immunité contre toute poursuite liée au contenu. Ce n'est pas une alerte, mais c'est un devoir de vigilance. L'autorité de sûreté nucléaire en France, l'ASN, estime qu'EDF a reculé dans sa rigueur de l'exploitation de ses centrales. Le niveau de sûreté est acceptable, mais le risque existe toujours, Véronique Roberotte.
Premier constat et pas des moindres, 2019 s'est soldé par une hausse d'événements significatifs dans les installations nucléaires françaises. 3 événements de niveau 2 sur une échelle de 7 ont été relevés l'an dernier contre 0 en 2018. Et puis, lors de simulations de crise comme une inondation ou un départ de feu dans une centrale, l'ASN a constaté que les consignes en cas d'incident n'étaient pas adaptées à la réalité de la situation à gérer. La documentation d'EDF contient parfois des erreurs ou pire, est inapplicable. EDF doit faire des efforts pour parvenir à plus de rigueur d'exploitation, estime l'ASN. L'autorité de sûreté du nucléaire souhaite aussi que l'exploitant EDF révise son plan grand chaud, celui qu'il lui faudrait appliquer en cas de canicule sévère, quand l'eau, élément vital d'une centrale, pourrait venir à manquer. Une pénurie à ne vraiment pas sous-estimer à l'ère du réchauffement climatique. L'ASN pointe aussi une saturation des capacités d'ingénierie d'EDF. Si la première visite décennale sur le site de Tricastin dans la Drôme, visite obligatoire pour la poursuite de la vie de la centrale au-delà de 40 ans, s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes selon l'ASN, le gendarme du nucléaire doute de la capacité d'EDF à mobiliser de tels moyens à l'avenir sur tous les autres réacteurs. Et ce, dans des délais satisfaisants.
C'était Véronique Roberotte. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, laisse sa place au candidat Les Républicains pour le second tour des municipales à Lyon. L'ancien ministre préfère ainsi se concentrer sur la présidence de la métropole face aux écologistes. Et puis ce candidat-là, LREM également, se désiste à Perpignan. Romain Gros, arrivé quatrième, veut faire barrage au député Rassemblement National Louis Alliot, qui était arrivé largement en tête au premier tour. Lui a fait barrage toute sa vie à l'extrême droite, armé de son humour et de son engagement ancré à gauche. Guy Bedos est décédé hier à l'âge de 85 ans. Son fils, Nicolas Bedos, l'annonçait sur les réseaux sociaux, lui rendant hommage évidemment. Guy Bedos, humoriste, acteur aussi, notamment dans Un éléphant, ça trompe énormément. Guy Bedos, combattant surtout, un homme résolument à gauche, Pierre Neveu.
Sur scène, comme sur les plateaux de radio et télévision, Guy Bedos maniait l'acide avec une grande dextérité, se faisant des ennemis dans toute la classe politique, mais aussi parmi les journalistes qu'il invitait. Il n'était pas qu'un simple commentateur de la vie politique, il faisait de la politique, seul en scène, dans ses revues de presse. Sa cible, le Front National. Bedos, engagé aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, d'Arnaud Montebourg, mais surtout de François Mitterrand en mai 81, sans concession avec l'homme du 10 mai, Guy Bedos sur France Culture dans l'émission À Voix Nue.
J'étais très séduit par Mitterrand, moi. Très. C'est lui qui m'a dragué. J'ai eu des moments formidablement passionnants avec cet homme, et que je critiquais, qui était d'une formidable indulgence avec moi, j'avais tous les droits, il me disait « Oh, vous y allez fort quand même ».
Un engagement total, sans être militant, encore moins l'homme d'un parti politique. « Je suis de gauche », disait-il, « mais pas socialiste ». Bedos embrassait toutes les causes, SOS racisme, droit au logement, Ligue des droits de l'homme. Il était fondamentalement contre le racisme sous toutes ses formes, comme il le revendiquait avant de monter sur la scène du Théâtre du Rond-Point il y a 6 ans.
Il y a le racisme de peau, mais il y a le racisme de classe, il y a le racisme de sexe. Donc il s'agit effectivement de toute cette hiérarchisation imbécile qu'ont installé ou que cherche à installer une certaine partie de la société.
Guy Bedos était avant tout un homme libre, heureux de châtier ses amis comme ses ennemis.
Il est donc décédé hier à l'âge de 85 ans. Le ciel de ce vendredi sera lumineux, ensoleillé encore, un temps chaud qui provoquera même quelques orages sur le sud-est en fin de journée. Ce matin, comptez 19 degrés à Dunkerque, 21 à Paris, 24 à Perpignan.